Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitania. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Pascal Dessin. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je suis très contente de vous avoir donc dans ce studio. Et puis, on va parler de votre dernier livre, Cruelle Nature au pluriel, n'est-ce pas? Et édité aux éditions Rivage Thriller. On en parlera dans un petit instant. En attendant, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors, je vous rappelle que ce soir, à la librairie Priva, qui se situe 14 rue des Arts à Toulouse, vous pouvez rencontrer Jean-Paul Kaufmann à 18h pour son livre « La maison du retour », publié aux éditions Nil, un récit lumineux où l'auteur raconte ses 3 années de détention au Liban. Donc, si vous avez envie de rencontrer cet auteur, c'est ce soir à 18h à la librairie Priva. Ensuite, pour à la médiathèque José Cabanis à Toulouse, toujours samedi 14 avril de 10h30 à 12h30, un atelier pour lire de la poésie. Alors, c'est un atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney et il s'agit de rencontrer la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples, de travailler ensemble, le dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole. Donc l'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Et c'est donc à la médiathèque et c'est au petit auditorium au 3e étage de la médiathèque de 10h30 à 12h30. Donc le téléphone pour s'inscrire, c'est le 05 62 27 45 24. 05 62 27 45 24. Et puis je continue avec le jeudi 19 avril, jeudi prochain, à 20h30 à la bibliothèque de Naïoux, où seront présentes les éditions Anna Karsis. Nous y retrouverons Julien Campredon, notre jeune auteur qui était venu dans cette émission de Page à Page le 15 mars dernier, pour son recueil « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes ». Donc il y sera, vous pouvez le rencontrer, il y aura une lecture. Donc c'est jeudi 19 avril à 20h30 à la bibliothèque de Naïoux, là où même il travaille, puisqu'il nous en avait parlé lors de l'émission. Et puis je terminerai donc ces petites infos avec une lecture spectacle qui aura lieu au Grand Rond au Théâtre du Grand Rond du 17 au 21 avril prochain à 19h. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour vous renseigner sur les places, etc. Donc c'est une lecture spectacle qui s'appelle Vanity Case et qui est animée par Véronique Colombet et Laetitia Rapin. Ce sont des écrivains donc féminins de continents divers qui parlent de leur vie et de leur place dans la société. Alors de leurs plumes graves et tendres, elles relient les mots à l'espoir d'une vie meilleure et juste. Voilà, donc si vous avez envie de venir découvrir cette lecture-spectacle, donc Théâtre du Grand Rond du 17 au 21 avril, le numéro de téléphone 05 61 91 50 50, 05 61 91 50 50.
Page à page, Claire Ambille.
Et puis nous tournons maintenant vers notre invité d'aujourd'hui, donc Pascal Dessin. Donc nous le connaissons bien dans le milieu toulousain puisque bon, il est auteur de nombreux polars. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a un. On va le dire tout à l'heure. Il y en a
quelques-uns, oui.
Quelques-uns. Il est modeste, hein. Il est modeste. Non, il y en a beaucoup. Le dernier, c'est plutôt un roman noir. Hein, c'est pas un polar.
Cruelle Nature. À tendance verte, oui.
À tendance verte, oui. Oui, tout à fait. Donc Cruelle Nature au pluriel. Donc Pascal Dessin, vous êtes né à Dunkerque, vous avez longtemps vécu à Dunkerque, donc vous êtes Toulousain d'adoption.
J'ai fait le grand écart.
Voilà, oui, compas, hop, la pointe du compas sur Toulouse. Et d'ailleurs, Dunkerque, on le retrouve dans votre livre. Hein. Et puis, vous êtes un peu Brennou, finalement, puisque vous avez
aussi
fait un séjour en Brenne hein, pour écrire ce livre, hein, puisque l'action se passe un peu à Dunkerque et puis un peu en Brenne. Et qu'est-ce qu'on peut dire de vous, alors d'autres? Parce que moi, du coup, j'ai pas grand-chose sur vous.
Oh, je pense qu'on peut dire que oui, je suis un auteur de romans noirs.
Depuis toujours?
Depuis toujours, non, parce qu'au début, je ne savais pas trop ce que j'écrivais. Il s'est écoulé entre mon adolescence et l'âge adulte une dizaine d'années où j'ai commis des textes sans vraiment savoir leur coloration. Je me tournais pas d'ailleurs vers des éditeurs de noir. Je me tournais vers des éditeurs indifféremment.
Tout court.
Voilà, tout court. Il se trouve que grâce à certaines rencontres avec des gens qui étaient de cette famille-là, j'ai fini par comprendre que j'écrivais du roman noir. C'est un petit peu le hasard, en fait, c'est le hasard. Mais ça résulte du souci que j'ai de ce monde. J'écris le présent, j'écris la société d'aujourd'hui, j'écris le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui n'est pas toujours réjouissant, bien au contraire. Donc ça situe, je dirais, naturellement mes histoires sur cette planète qui est la planète polar, où on retrouve différentes sensibilités. Ça peut, la planète polar est composée du thriller, est composée du roman criminel, du roman noir, du roman policier. Enfin bon, moi je suis plutôt dans cet espace du roman noir parce que j'ai un souci du monde, parce que avant l'histoire, je m'intéresse au milieu particulier que j'ai envie d'aborder, comme le rugby dans Du bruit sous silence, comme aujourd'hui les problématiques environnementales. Voilà, donc ça me situe dans ce monde-là.
D'accord. Donc oui. Donc, j'ai du mal à revenir à ma préoccupation principale. C'était comment vous en êtes venu à l'écriture? Vous avez toujours écrit finalement? Vous avez fait des études plutôt littéraires ou plutôt scientifiques?
Non, scientifique.
Scientifique. Et donc finalement, ça vous a quand même amené à l'écriture.
Non, mais c'est comment on arrive à l'écriture? On vient à l'écriture.
Vous avez beaucoup lu peut-être.
Voilà,
aussi.
On vient déjà à l'écriture par la lecture.
Oui. Je crois que c'est intimement lié.
Voilà, on a envie d'écrire parce qu'on aime lire. Parce que ça excite l'esprit, ça stimule l'esprit. Et puis un jour, on se dit, pourquoi pas moi? Et on a envie de raconter des histoires comme on vous en racontait quand vous étiez petit. Et donc, c'est une vocation assez précoce.
Ça, je sais pas si à mettre
ah, bah alors là, non, c'est un livre adulte.
Vos livres sont.
C'est un livre adulte, mais.
Il ferait peur, hein,
mais il n'empêche que ça part de là, l'envie de raconter des histoires.
Oui, tout à fait.
Surtout ça. Et après, de jouer avec les mots, de le plaisir que procure la phrase. Ça vient de là. Quand on a goûté à ce plaisir, on est comme happé. Véritablement happé, et ça devient une bonne drogue.
Oui, mais enfin, de passer des études scientifiques à quand même toute cette écriture, c'est moi ça.
Il y a eu de célèbres exemples. Hein. Boris Vian était ingénieur de centrale. Céline était médecin.
Oui,
non, au
vrai.
Contraire, c'est un atout. C'est un atout parce que il y a pas pollution, je dirais. Le risque, par exemple, d'avoir fait des études de lettres quand on est écrivain, c'est d'être un peu entre guillemets pollué par les œuvres. Des autres et par la tentation de décortiquer trop les choses.
Oui, parce qu'on est trop dans
voilà,
ce milieu-là.
Et puis de théoriser. Oui. Quand on est dans la littérature, avant d'être dans une méthode, dans une manière on est dans l'émotion. On est dans. Enfin, c'est une discipline extrêmement instinctive. Hein, ça vient moins de l'esprit que du cœur et du ventre. Donc, je ne sais pas si d'étudier les grandes œuvres, d'avoir cherché sous la phrase le sens caché,
pourquoi
et puis parler en termes de concept, enfin des mots un peu agaçants pour moi. Je ne sais pas si ça m'aurait beaucoup aidé à écrire, bien au contraire.
Et vous avez voyagé pour écrire donc tous ces livres?
C'est
ça vous a servi aussi de support de voyager?
Forcément, quand on est dans une écriture, dans une littérature du présent, le présent vous nourrit. Donc,
il faut bouger pour voir maximum.
Il faut, c'est-à-dire, c'est aussi là
vraiment,
encore, toutes les occasions sont bonnes. L'occasion fait le larron. Donc, Cruelle Nature, par exemple, se passe pour une bonne partie en Brenne, c'est-à-dire le parc naturel régional de Brenne qui se situe au sud de Châteauroux, donc dans l'Indre, au centre de la France. Ce n'est pas un hasard, bien évidemment. C'est parce que j'y ai séjourné pendant 3 mois, il y a de cela 3 ans, et que ça a été une bonne nourriture pour l'écriture. De la même façon, récemment, j'ai fait une tournée internationale dans des centres culturels français, aussi bien au Mexique qu'à Beyrouth, qu'à Amman, qu'en Allemagne, un peu partout. C'est l'expérience que j'en ai retirée
vous servira pour un prochain
oui ou non. On ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça rejaillit tout ça. Toujours est-il que vivre est nécessaire. Alors il faut pas essayer de vivre à tout prix parce que bon, il faut que les choses vous pénètrent lentement et il faut aussi que ça vous ressemble.
Oui, aussi,
Il y a des mois, on aurait beau m'envoyer 3 mois à Airbus. Bien sûr, dans les locaux d'Airbus, il y a des choses qui pourraient m'inspirer, parce qu'un auteur a toujours quelque chose à saisir d'une certaine réalité. Mais c'est pas le milieu où je me sentirais le mieux, et c'est pas la matière qui serait le plus aisément à venir dans mes livres. Donc voilà, il faut vivre avec intelligence.
La ville de Toulouse vous a inspiré, puisque plusieurs de vos polars
Loin des humains, qui avait comme toile de fond la catastrophe à ZDF.
Voilà,
Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Du bruit sous le silence qui se passe dans le milieu du rugby à Toulouse, du stade toulousain. Cruelle nature est l'exception aujourd'hui.
Oui.
C'est
pas un polar et en plus il se passe
C'est un roman noir et en plus pour la première fois il ne se passe aucunement à Toulouse.
Pas du tout, ouais.
Il se passe dans la Brenne que nous évoquions
et à Dunkerque,
donc
ville natale.
Le retour aux sources à un moment donné.
Il le fallait. Ça vous aviez envie de...
C'est-à-dire qu'on a vécu 20 ans dans un endroit. Je pense que maintenant, il y a une sorte de mélancolie qui apparaît en moi, parfois de nostalgie. Et puis, j'ai pris la mesure avec la distance du potentiel romanesque de ces régions du Nord. Et comme je suis amené, grâce à la littérature, à y retourner pour une raison ou une autre, hein, une conférence, hein, une rencontre, une signature. Là, je capte des choses que je ne captais pas avant et qui me semblent intéressantes à mettre en fiction.
Avec le recul, peut-être, vous pensez le recul de l'âge, enfin le recul d'avoir mûri,
oui,
peut-être,
oui,
on voit
puis,
les choses autrement de sa vie natale.
Aujourd'hui, j'ai écrit une quinzaine de livres qui se passent à Toulouse. Bon, j'avais envie un petit peu de prendre du recul, de ne pas être enfermé aussi dans une image. Et c'est l'occasion ou jamais, c'est la meilleure des matières qui soient à ma disposition pour respirer autrement, pour trouver une autre niche littéraire. Donc c'est un premier coup d'essai, c'est pas le dernier je crois, bien que dans Du bruit sous le silence, le commissaire de police Elie Verland, qui était en charge de l'enquête à propos du meurtre du demi de mêlée du stade toulousain, était originaire de Dunkerque.
Ah oui,
comme c'est une région qui n'est pas très rugbystique.
Oui.
Ça me permettait de faire avec lui faire découvrir ce sport incontournable donc dans le sud-ouest, et il y avait déjà des évocations de Dunkerque. Le commissaire appelait son frère de temps en temps, qui lui était sur la place du Minc à Dunkerque, près de la tour du Loguenard. Et donc là, vous voyez comment ça fonctionne, il y a une petite tentative et puis on pressent le potentiel, et un jour, quelques années plus tard, allez, on scoltine à cette réalité et on en fait un livre.
Et on va dire, alors, votre bibliographie, donc on va citer un petit peu les titres. Vous avez eu de nombreux prix, hein, pour de nombreux donc polars. Donc,
trop presque.
Non, vous les méritez certainement.
Mais c'est-à-dire que, vous savez, c'est toujours une satisfaction, parce que j'ai eu aussi bien des prix décernés par des critiques littéraires, par des jurys composés de professionnels du livre, et puis par des lecteurs. Donc, à un moment donné, forcément, ça a du sens. Et en plus de flatter, ça conforte dans une démarche.
Bah oui, ça vous pousse à continuer à écrire pour le plaisir de tous.
Mais ça met la pression aussi, parce que...
Ah oui, parce qu'on vous attend au tournant aussi.
Oui, il faut oublier tout ça. Il faut oublier, à un moment donné, quand on se remet devant la page, qu'on a un nouveau projet, il faut se dire... Waouh, je suis comme le bébé qui vient de naître, nu devant l'inconnu, parce que ça pèse un peu. Mais bon.
Et il faut trouver de nouveaux habits,
pas
de ceux qu'on a déjà mis, mais des autres.
Exactement. Faut se remettre en question, parce qu'il faut s'étonner tout le temps. Parce que le drame, oui, pour un auteur, c'est la routine, voilà, c'est tout d'un coup la répétition.
Comme dans la vie tout court, d'ailleurs.
Et pas comme dans la, oui, comme dans la vie tout court, mmh, c'est vrai, mais la vie nous soumet à certaines contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. Et là aussi, un auteur, à un moment donné, pas prisonnier, mais disons que il écrit ce qu'il est, quoi. Alors à un moment, ça peut être un petit peu insatisfaisant, d'où l'envie, la nécessité profonde d'aller voir, voilà, d'aller voir ailleurs.
L'habitude suis, et d'aller.
Vous voyez, je suis pas un auteur de série. Certes, j'aime garder mes personnages à un moment. C'est pour ça qu'il y a eu une première trilogie composée de La vie n'est pas une punition, Entre courbes et les chines, On y va tout droit. On y retrouve un personnage qui s'appelle Émile, récurrent. Je pouvais en écrire un quatrième volet, mais j'ai eu le sentiment que ça serait forcé et à un moment donné, on s'en tirait les ficelles. Mmh. Et donc, j'ai dû passer à autre chose.
Donc aller prendre un par un, enfin, des personnages tout à fait indépendants des uns des autres dans chaque roman.
Oui, oui, oui. Et puis bon, il faut à un moment donné, oui, se surprendre. Et pour se surprendre, il faut changer d'air.
Donc le premier, vous l'évoquiez à l'instant, donc c'est La vie n'est pas une punition.
Non, parce, alors là, c'est le premier, vous avez raison sur un point, c'est le premier publié aux éditions Rivage.
D'accord.
Mais c'était déjà mon quatrième livre, puisque j'avais publié Les paupières de loup, Une pieuvre dans la tête et De quoi tenir 10 jours.
D'accord. Donc, et Bouche d'ombre, donc vous avez le prix Mystère de la critique pour celui-là.
Oui, c'est un livre. Alors là, le prix Mystère de la critique, c'est quand même extrêmement enchantant, puisque, comme son nom l'indique, il est décerné par les critiques littéraires sur une sélection sur toute la production de l'année de parution.
Après, on a À trop courber les chines, donc, vous en parlez un instant. Du bruit sous le silence, donc ça, c'est Grand Prix de la littérature policière. Mmh. Hein, voilà, reconnu par. Ensuite, on a Une pieuvre dans la tête. On y va tout droit. Et puis, alors, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Ça, c'est le trophée donc, du meilleur roman francophone.
Oui. Hein, c'est un prix de lecteur. Un prix de lecteur très précieux.
C'est précieux, les prix de lecteur.
Ah oui, tout à fait.
Autant
oui,
que les prix de littérature.
Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est important. Oui.
Alors, Les paupières de loup. Mm. Et puis, Loin des humains, donc l'avant-dernier, hein, qui lui a eu le grand prix du roman noir de Cognac, hein, en 2006,
au
Festival de Cognac. Et puis, Un drap sur le Kilimandjaro, ce sont des chroniques vertes et vagabondes, ça c'est aussi un polar ?
Ah non, comme son nom l'indique, c'est donc un recueil de chroniques, c'est un recueil de réflexions sur la nature.
Sur la nature, donc
parce
déjà.
C'est-à-dire que...
Bah déjà, par rapport à la nature, je disais.
Voilà,
déjà,
En 2003, j'ai engagé donc un nouveau cycle romanesque abordant ces questions de nature, d'environnement, de nature malmenée, le rapport de l'homme à son milieu, avec Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, que j'ai poursuivi avec Loin des humains, qui a comme toile de fond la catastrophe AZF à Toulouse. Ce sont des romans. Alors, on y raconte des choses sérieuses, puisque je mets en scène des personnages sérieux qui ont des vocations fortes. Mais néanmoins, le lecteur peut toujours se dire, tiens, n'est-ce pas une invention de l'auteur ? Alors, j'ai ressenti le besoin, et puis c'était extrêmement excitant en termes d'écriture, de raconter un peu les mêmes choses, mais d'une manière un petit peu plus sérieuse. Bien qu'avec humour, il faut toujours avoir de l'humour pour faire passer certaines choses. Et donc j'ai commencé en fait un cycle parallèle au cycle romanesque, qui est un cycle de réflexion qui va se poursuivre. Et donc c'est un petit texte que j'aime beaucoup parce que il raconte la vie telle qu'elle est. Et puis surtout c'est un appel par rapport à toutes les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, notamment celle du réchauffement de la planète.
Voilà,
j'y dis des choses qui ne plaisent pas toujours, sans angélisme. Voilà, c'est un texte qui compte beaucoup pour moi.
Donc c'était donc un drap sur le Kilimandjaro.
C'était l'année dernière, oui.
Les hommes sont courageux aussi, on a comme
ça, c'est
livre.
Un recueil de nouvelles.
Il
fait partie d'une autre trilogie à ce jour, qui est composée de quoi tenir 10 jours. Ça y est, j'ai craqué. Les hommes sont courageux, qui sont mes trois recueils de nouvelles à ce jour. Ouais.
Voilà, ouais, donc j'y venais, donc ça y est, j'ai craqué, et puis de quoi tenir 10 jours. Et puis, vous avez créé un poulpe. Là,
et oui, hein, là, ça ne me rajeunit pas. Ça fait 11 ans déjà.
L'épi-rennais. Alors, l'épi-rennais, c'est en trois mots. Hein. C'est un beau jeu de mots. Donc, voilà, vous avez créé un poulpe.
Mais oui, j'étais au tout début de cette aventure très, très conviviale, on va dire.
Oui, bah oui, le poulpe en général, ça rassemble plusieurs auteurs.
Oui,
ça,
puis c'était,
hein,
c'était
amusant.
C'était un moment où le polar avait le vent en poupe et c'était peu de le dire. Il y avait beaucoup moins d'éditeurs de polar. Il y avait, on formait une belle famille, mais aujourd'hui les éléments de la famille, comme dans toute la famille, sont un peu dispersés. Mais c'était très très agréable, très plaisant.
Voilà, donc un beau souvenir. Alors, on en revient à votre livre, donc, le dernier.
Et oui,
quand
même,
Cruelle nature au pluriel, donc aux éditions Rivage Thriller, avec une superbe photo de couverture qui est un envol de héron en braine.
Oui, une photo de Nicolas Van Degen et Jean-François Hilliot, qui sont les photographes de référence de la braine. Et
alors,
en matière... d'ornithologie aussi, de naturalisme.
Donc très beau, très belle photo. Et donc vous dites au début ou à la fin, je ne sais plus, roman noir, enfin c'est un roman noir, et qui se nourrit largement des moments vécus avec, et vous énumérez de nombreuses personnes, donc c'est une fiction, mais bon, qui se nourrit quand même de moments que vous avez passés avec diverses personnes, donc en Brenne, et bon, sûrement ailleurs également, hein, puisqu'il se passe à la fois donc en Brenne et à Dunkerque. Et moi, ce que j'aime bien en prélude, c'est la phrase que vous avez écrite de Rick Bass. Qu'est-ce qui est à l'œuvre ici, l'ordre ou le chaos? Et je trouve que ça incarne
ça
tout à
le
fait
là, oui.
Le ton du... Voilà, ça donne le ton de tout ce qui va suivre dans les pages qui suivent. Et donc, ça commence par une tortue, ce roman, hein, une tortue qui traverse la route. Et puis, à la fin du livre, il y a encore une tortue qui traverse la route et qui, bon, provoque peut-être quelque chose.
On
le découvrira.
Pas.
Voilà. Hein,
on va garder le
suspense. Lecteur, le découvrira. Ben, est-ce que c'est la même tortue au début et à la fin? Est-ce que c'est cette tortue?
À la fin, en fait, il y en a deux.
Oui, hein, il y en a deux.
Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de tortues.
La Brenne.
C'est au mois de juin. Autant rouler doucement, parce que dans un virage, on peut avoir la surprise de rencontrer une tortue qui traverse la route, qui va d'un étang à l'autre. Il me paraissait intéressant de commencer le livre là-dessus et maintenir un suspense avec une tortue qui est un animal plutôt lent.
Oui,
je trouvais ça extrêmement intéressant.
Oui, et on la retrouve, elle ou sa sœur ou ça.
Il y a des lecteurs qui me disent quand même, tu parviens à nous tenir en haleine avec une tortue.
Oui.
T'exagères.
Donc vous aimez les animaux, Pascal Dessin, parce que genre tout ce livre, ça se nourrit beaucoup de...
C'est ma passion première. Avant d'écrire, je suis ornithologue dès 10 ans.
Voilà, vous
m'avez
pas dit.
Mais oui, mais il n'y a pas de hasard. Je veux dire, on ne peut pas intégrer dans ce qu'on écrit, dans ses romans, dans ses livres, des choses qu'on ne connaît pas de près ou de loin. Ça serait malhonnête, ça serait une imposture. Il y a toujours eu beaucoup d'animaux dans mes livres, dans Une pieuvre dans la tête. Le commissaire d'Esbara, d'ailleurs, était déjà ornithologue. Dans mes récents livres, notamment Loin des humains, on s'intéresse beaucoup aux animaux de Toulouse. C'est parce que je les connais, c'est parce qu'ils m'intriguent. Je suis fasciné par ça. Et évidemment, là... je n'aurais pas pu décrire certaines scènes sans y avoir insisté et sans être intéressé par ça. Le regard voit ce qu'il veut bien voir, mais moi, mon regard est attiré par le vol d'un papillon et est accroché par la couleur d'un oiseau. Donc, c'est ce que je raconte parce que effectivement, je connais cela et c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, moi, c'est ma passion première, c'est la nature.
Vous avez voulu faire passer donc votre passion dans votre dernier livre, parce qu'on apprend beaucoup de choses, hein, je veux dire, au niveau de...
Oui, j'espère,
Moi, je ne connais pas trop, hein, les oiseaux, tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi, on s'y prend au jeu, quoi, hein, à lire, à découvrir.
Bah, c'est-à-dire que je crois que
animaux en Brenne.
C'est une matière romanesque extrêmement forte, la nature. Alors après, le souci, c'est d'en faire une forme littéraire qui ne soit pas rébarbative et qui soit agréable à lire. J'espère que des gens qui se moquent de la nature, qui ne sont pas particulièrement intéressés, vont être là captivés par ces scènes que je raconte.
Oui, oui, tout à fait. Hein. Moi, qui ne suis pas attirée plus que ça par les animaux, enfin, par ce genre d'animaux, quoi, tout à fait, plus ou moins. Ben, non, ça m'a. J'ai découvert quelque chose. Ça. On referme le livre, on a l'impression d'avoir appris des choses. Or, en plus de l'histoire, bien sûr. Et bon, ce qu'il y a d'original, c'est les trois parties. Ce livre se divise donc en trois parties. Et donc, les trois parties ont toutes des titres à connotation donc, d'animaux. Hein, parce que le premier, c'est le papillon, la gentiane et la fourmi. Le second, c'est le jet et le moineau. Et la dernière, donc, partie, c'est les tortues, évidemment. Et puis, bon, ce qu'il y a d'original aussi, c'est que les chapitres sont alternés. Il y a à la fois des chapitres... Bah, je veux dire déjà les personnages principaux. En fait, il y a, je dirais, trois personnages principaux. Il y a Antoine, un ancien écologiste renommé qui vit donc en Brenne. Il y a Myriam, sa compagne. Et puis Morissette, une jeune adolescente qui vit à Dunkerque.
Un peu paumée,
oui. Oui, c'est ça. Voilà, qui vit à Dunkerque. Et puis, voilà. Et puis ces trois personnages, puis les amis, les deux copains de Morissette, donc Régis et Thierry. Et ils vont tous être amenés, en fait, ces personnages à se rencontrer... au fil de ce livre, de cette histoire. Alors voilà, on va pas dire comment ni pourquoi, il faut lire le livre, mais voilà, ils vont arriver à se rencontrer. C'est un peu des destins croisés, des destins, des vies qui se dénouent comme ça. Et donc les chapitres sont alternés, il y a des chapitres où Antoine raconte, des chapitres où Morissette raconte, et puis des chapitres où il y a donc des lettres d'une mère à sa fille, voilà, qui sont éparpillées dans le livre. Donc c'est plutôt original, je trouve, comme construction de... Ça change un peu du classique...
Linéaire, oui.
Voilà.
Bah, c'est ma méthode, hein. C'est pas la première fois que j'écris de cette manière. C'était déjà présent dans Loin des humains. J'aime, par rapport à... Un sujet, une situation, différents éclairages. Ça permet différents éclairages. Et c'est assez excitant en termes d'écriture, parce qu'on investit comme ça, au fur et à mesure, divers personnalités. On prend des rôles différents, c'est un peu du théâtre.
Oui. Puis bon, ça rend peut-être l'histoire plus vivante, enfin plus. Ça casse le rythme. Ah oui, non, mais moi, j'ai vraiment. Bon, ça fait un peu un récit un peu fantastique, voire fantasmagorique, hein, cette nature de Brenne avec ses animaux, cette atmosphère des temps et de forêt.
De brume. Surtout.
De brume, voilà, oui, ça rend un peu l'atmosphère un peu opaque, hein. Donc c'est assez tendu, quoi, quand même, comme histoire. Et donc voilà, donc je rappelle le titre parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc je voudrais pas, voilà, donc Pascal Dessin, Cruelle Nature, alors au pluriel pourquoi, parce que nature,
il est question là de la cruauté humaine
et
des différentes cruautés qu'on peut retrouver en l'homme. Il y a aussi de la cruauté dans la nature, hors l'homme certes, mais là il est plutôt question là de sentiments,
cruauté de sentiments.
Ces sentiments qui, à un moment donné, nous font basculer, souvent dans le drame ou dans l'horreur.
Ouais, donc c'est un peu, voilà, un peu mélangé, quoi, un peu les deux.
Oui, mais au lecteur
de découvrir,
de décoder, je dirais presque parce que c'est vrai que la nature que je montre, j'aime la nature, mais celle que je montre n'est pas une nature très très apaisante, hein, très rassurante.
Non.
J'y raconte des choses. Terrifiante.
Et pourtant,
ça ne concerne que des petits animaux, on va dire, de petites créatures. Et pourtant, ça bastonne bien.
Mais nous ne sommes finalement que de petites créatures dans ce vaste monde.
C'est ce que les personnages, à un moment donné, se disent, oui.
Et oui. Donc c'est édité, donc je le rappelle, aux éditions Rivage Thriller. Et puis alors, on peut vous voir au salon de Balma la semaine prochaine, le 20, 21 et 22 avril prochain, donc au salon du livre de Balma.
Et le 19, un forum à la FNAC Wilson.
D'accord, et le 19 avril, jeudi 19, à quelle heure ?
17h, je crois.
À 17h, à la FNAC, donc à Place Wilson.
Tout à
donc
fait.
Voilà, pour parler aussi de Cruelle Nature.
Essentiellement.
Et puis, donc, vous avez bien sûr de nouveaux projets. Donc, un retour au polar. Le prochain, ça sera de nouveau un polar.
Le, le prochain sera
un polar.
Un polar, oui, tout
voilà,
à fait.
Vous
oui,
revenez
oui.
À
Toulouse, 100% toulousain pour une fois.
Ah oui, 100% voilà. Toulousain et de nouveau un polar. Donc celui-ci, c'est un peu, il est un peu à part, quoi, finalement.
Il est un peu
un petit peu à part.
Voilà.
À part
oui.
Dans votre...
C'est une autre direction que j'espère développer, que j'espère poursuivre toujours pour échapper à l'ennui, à
la monotonie,
routine,
voilà. À l'habitude. Ouais, donc, on retrouvera peut-être un Cruelle Nature appelé autrement dans quelques années.
Je vais sans doute dérouler, certains sujets que j'ai abordés là pour la première fois.
Et ce séjour en Brenne, vous en avez gardé un souvenir
Mais j'y retourne très, très bientôt. Oui. Le mois prochain, je vais retourner
dans
en
dans les Brenne. Brumes.
Exactement. Pendant une douzaine de jours, je vais aller me ressourcer là-bas. C'est une autre patrie. J'en ai trois maintenant. Le nord de la France, la Brenne et Toulouse.
Et puis Toulouse. Et oui, bah, écoutez, merci beaucoup Pascal Dessin pour notre émission là, d'être venu nous présenter donc votre livre Cruelle Nature. La semaine prochaine, je reçois Alain Légoni pour son livre Perpète, édité aux éditions du Rocher. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. À d'ici, à tous.
Une balise Toulousain, là,